Je ne peux pas parler de ce que dit l'hébreu du langage unique. Bon, c'était pour rattacher un peu au sujet. Vous avez encore une question, Pierre Marange?
Oui, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si vous voudrez répondre, ou bien tu parles du sujet de votre séminaire.
Vous avez dit une deuxième commande, là.
Voilà. Vous avez dit à un autre séminaire, vous avez dit, on revient toujours de temps en temps, dialogue, disons pas amitié, mais dialogue, je vais au détail, et vous avez dit impossible. Mais vous n'avez dit pas encore commencé. Pas encore commencé, mais donc
il est possible. Très bien. Hier soir, j'étais un petit peu enrhumé, alors j'ai parlé un peu trop rapidement. Mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est impossible.
Non, vous avez dit hier, oui, pas encore commencé.
Oui, en disant ça, j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est impossible. C'est-à-dire que je l'ai réclamé, j'espère que je suis arrivé à être le plus courtois, comme je disais, possible, mais qu'il faudrait que le chrétien acquiesce à des postulats fondamentaux, il y a eu un mythe païen qui nous a séparés pendant 2000 ans. Et ensuite, ensemble, on peut récupérer pour l'un et l'autre le contenu de cette option de foi en l'épurant et en se rendant compte que dans le contenu, il est lié la même notion, celle de l'inanélogie. Dans la tradition juive, grâce à Jules Alévi, on peut en parler aussi au niveau d'une formulation philosophique, c'est grâce à lui. D'ailleurs, je signale, c'est le premier enseignement que nous avons reçu de M. Gordin, c'était l'enseignement du Kuzari. Et ensuite, on a suivi la filière, qui est une filière historique très, très claire, le Kuzari, le Maharal, le Rav Kook. Et c'est comme ça que ça suit. Et alors, que le contenu de l'objet de foi, c'est le Inyana Eloki, mais que la différence essentielle, c'est que dans la tradition d'Israël, pour les Juifs, il s'agit d'une manière d'exister. Alors que pour la tradition chrétienne, c'est un objet de foi projeté sur une figure mythique qui est censée représenter Israël. Alors, j'ai essayé d'expliquer pourquoi un tel dialogue n'a jamais pu commencer. S'il commencerait un jour, il faudrait que ce postulat soit accepté. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on est en train de demander aux chrétiens 2000 ans après, une chose énorme, de se rendre compte que chaque fois qu'un chrétien s'agenouille devant le symbole du Christ, il s'agenouille devant le peuple juif. Les mythifiés se forment.
Un chrétien qui est un élève de
Dupuis,
qui travaille avec
Dupuis,
dit exactement cela.
Oui, comment les élèves dépassent leur
mère. Non, mais il y a une autre question que vous posez dans ce sujet-là. Ce que vous dites, là où j'ai eu l'impression de vous rapprocher de l'église, c'est que l'église demande aux chrétiens de faire une lecture talmudique des évangiles.
Je suis tout à fait d'accord. Je me souviens du jour où il l'a entendu. C'est sans problème. Et voilà, jusqu'à présent, c'est pas un abbé, l'abbé Cassis, mais jusqu'à présent, les chrétiens ont dit qu'il y avait un voile entre la Bible et les Juifs, que les Juifs ne savaient pas lire la Bible, et qu'il fallait lire ce qu'ils appellent l'Ancien Testament à la lumière des évangiles. Alors, ce que vous dites, et je voudrais le formuler encore de façon un peu plus abusée, en réalité, c'est l'inverse que j'ai essayé d'indiquer en filigrane hier. C'est qu'il faut que les chrétiens s'habituent à l'idée qu'ils doivent relire les évangiles avec une liturgie et qu'il y a un voile entre le texte des évangiles et des chrétiens et non pas un voile entre le texte de la Bible et les juifs. Bon, c'est la première fois que j'ai commencé à parler en public dans ce séminaire. De cela, je vous avais annoncé le lundi, alors que vous savez très bien que ça fait 30 ans qu'on étudie ça. Mais je crois que peut-être le moment est venu, à cause probablement de ce qui s'est passé à la rencontre de Rome il y a quelques semaines, qu'il y a un feu vert supplémentaire qui a été donné aux ecclésiastiques qui s'occupent de ces problèmes. Alors on va essayer. Mais vous voyez à quel... je ne sais plus comment c'était intitulé, vous vous rappelez comment elle s'appelait cette commission?
Oui. Crie à Rome.
Il y a eu une réunion à Rome, il n'y a pas très longtemps, de tous les spécialistes ecclésiastiques chrétiens des relations judo-chrétiennes dans le monde entier, et semble-t-il, le pape aurait dit, allez un petit peu plus loin, mais pas trop.
C'est un changement d'être
complet du monde chrétien. Vous êtes très optimiste, hein?
Non,
très...
Ah oui. C'est énorme. Oui. Ça risque de prendre 2000 ans.
Il y a tellement de passion, de sensibilité. Non, ça risque de faire sauter la planète. Je veux dire, ça risque de mettre fin dans la violence à la civilisation occidentale, et c'est pas souhaitable. La fin peut-être, mais pas dans la violence. Je veux dire ceci, c'est que il y a tellement de sensibilité, de passion, d'affectivité qui est en jeu dans ce niveau du dialogue que nous n'avons jamais osé en parler en public. Parce qu'un juif ne peut pas comprendre ça. En cela, il serait chrétien s'il le comprenait. Qu'est-ce qu'il y a comme passion dans la France en ce récit de la passion? Je comprends le problème. Et que, en fin de compte, au fond des choses, mais qu'est-ce que nous racontent ces gens-là? Le sort du monde est en jeu. Dans quoi? Dans le fait qu'eux deviennent chrétiens. Alors que pendant ce temps, on est en train de leur expliquer gentiment, vous auriez pu être de très bons juifs, mais vous êtes devenus des païens à cause d'un mythe. Lequel? Celui-là même. C'est énorme.
Et s'ils nous donnent raison, en plus, ce sont des assassins.
Des assassins de quoi?
Ils nous ont tués pendant des millions.
Les Romains, pas les... Attends, les Romains, pas les chrétiens. Ah, ils ont persécuté.
Oui, ils ont les martyrs de sang. De sang de leur
pape. Écoutez, je voudrais vous signaler une chose. À la suite de la déclaration que le pape a faite après cette réunion, il y a eu dans l'information juive deux articles. Un de Jacques Ellul et l'autre de M. Léminas. Vous voyez à quel numéro je fais allusion? Alors lisez bien l'article de Jacques Ellul. M. Léminas a fait un article pour se féliciter d'un progrès dans la civilité. Et Jacques Ellul a dénoncé la position du pape en disant voilà les quatre points sur lesquels il faudrait que nous entendions une réponse claire. Et comme lui est protestant, il peut se permettre d'interpeller les catholiques par rapport aux juifs, quelque chose comme ça. Lisez bien cet article de Jacques Ellul. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je pense que c'est très bien, vous avez très bien compris quel est l'enjeu. Voilà ce que je veux ajouter. Deux choses claires, et puis on parle de ce problème ce matin en tout cas. C'est ceci. Je suis persuadé de plus en plus, mais cette découverte, je l'ai faite il y a une trentaine d'années, que c'est intentionnellement que les rédacteurs des évangiles ont présenté ce mythe aux nations païennes, en essayant une stratégie pour judaïser Rome de l'intérieur. Mais ça a échoué. Intentionnellement. Encore une fois, comme j'ai dit hier soir, dès que les rabbins se sont aperçus de la préparation de cette stratégie à partir d'une petite secte midrashique, racidique, messianique, les judéo-chrétiens qui essayaient de penser comment on pourrait tourner Rome par Joseph, les rabbins ont interdit. Ils disent c'est pas cachère, c'est impur, c'est démoniaque, satanique. Attention, en réalité, votre apôtre serait crucifié la tête en bas, et toutes ces histoires-là. Et c'est arrivé d'ailleurs dans le mythe. Mais les judéo-chrétiens se sont endettés, et finalement, l'état de la civilisation à cette époque-là, ayant besoin de ce mythe du salut, c'est parti en flèche fulgurante. Corollairement, les juifs ont été persécutés parce qu'ils sont les empêcheurs de tourner en rond du mythe. Je ne sais pas si j'ai répondu là au point de votre question. Et oui, vous disiez les chrétiens nous ont persécutés. C'est encore une autre dimension du problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire que ce sont les chrétiens qui soient responsables de la mise en croix du peuple juif au niveau du mythe. Les Romains, c'est autre chose. Et il est possible qu'un jour, je vous fasse étudier un texte du Maharal, et vous verrez que sans qu'il en parle, le Maharal donne l'explication du symbolisme de la croix comme étant la mise en croix du peuple juif par la civilisation romaine. Mais il le démontre de façon extrêmement belle. Alors attention au délire. Au niveau de l'effectuation de sa foi, le chrétien ne veut pas être déicide, ce dont il a pu dire. C'est le romain qui l'a été. Mais quand le romain était déicide, son dieu c'était le peuple d'Israël. Et c'est cela qu'a intégré la croyance chrétienne. Voilà. Alors, je reviens à votre situation donc de Phèdre, avec Armand, qui est que, effectivement, les chrétiens ont besoin d'une lecture talmudique. Il faut remettre ces dominos de lecture en araméen, puis en hébreu, avec le contexte midrashique et aussi l'éclairage de la Kabbalah. Et qu'est-ce que voulait dire ces unités de lecture que les chrétiens lisent pieusement, sans les comprendre vraiment? Ce sont des mystères pour eux, parce qu'il s'agit du contenu de l'histoire du Yéniana et l'Ophi des Juifs. Alors on va schématiser tout ça. la messianité chrétienne est un phénomène de croyance. La messianité juive est un fait d'existence, c'est une histoire qui se fait comme ça. Cette histoire est racontée sous forme d'un récit de la passion par les chrétiens. Mais c'est l'histoire d'Israël qui est racontée sous la forme d'un mythe païen. Et comme c'est pas n'importe quel mythe, il a pris. C'est le mythe d'Israël. Et comme je vous ai dit souvent, nous en tout cas, nous sommes en plus ce mythe. C'est ce que vous avez dit.
Vous voulez dire que le monde païen de l'histoire a besoin de cette stratégie du salut et qu'elles vont partir en fait. Est-ce que ça n'est quand même pas un constat d'un manque de la richesse
des juifs.
Les rabbins de l'époque,
ils n'ont pas répondu. Écoutez, n'oubliez pas que le judaïsme était, il s'agit de la Judée du temps du deuxième temple, écrasé politiquement, nationalement, militairement par Rome. De quel peuple juif on parle à ce moment-là? C'est-à-dire d'un peuple, écrasé. Rome a conquis l'Empire romain, et d'ailleurs, elle a eu deux régions qui ont causé beaucoup de difficultés, c'était la Gaule et la Judée. Vous vous rappelez de ça, au temps de César. D'où l'alliance franco-israélienne. Mais la Gaule, elle a fini par l'intégrer, par la détruire. Il n'y a plus de tradition druidique. Fini. La Judée est entrée en clandestinité. Mais c'est tout de suite d'une société incapable d'effectuer son histoire que vous parlez en parlant du peuple juif depuis 2000 ans jusqu'à nous, jusqu'à 48. Et en termes de symbolique chrétienne, pendant 2000 ans, nous avons vécu la crucifixion. Nous sommes en train de vivre la résurrection, mais Rome ne s'en aperçoit pas. Dans son récit, c'est la Pâque pour nous. Mais Rome, enfin, ne s'en aperçoit pas. Peut-être qu'elle va finir par s'en apercevoir. Alors, il va se poser un problème. Je ne sais pas si la génération actuelle des théologiens chrétiens est prête à ça. D'arriver à entendre de quoi il s'agit dans le contenu de leur foi. Il s'agit de croire que l'identité Israël est médiatrice, salvatrice. Et oui, comment ça s'est transformé d'une histoire dont la charte est la loi morale, le peuple juif est la Torah, en une confession religieuse, dans la croyance d'un mythe des religions à sauveur. Comme ce mythe des religions à sauveur n'était pas n'importe lequel, c'est Israël en effigie, alors un élan vital, un courant d'âme, dirait Bergson, a passé par là, et corollairement, il fallait supprimer le peuple juif en tant que témoin, qu'on appelait Judas dans le mythe. Regardez bien cela. Prenez la troisième partie de la généalogie de Matthieu. À un certain moment, il est nécessaire qu'apparaisse un certain Jacob, oui, qui aurait comme fils un certain Joseph, et alors apparaît la même structure. Et autour, il y a 12 apôtres comme les douze enfants de Jacob, mais qui est l'antagoniste du fils de Joseph dans le récit de Matthieu, c'est comme par hasard un certain Judas, ça veut dire les Juifs. Vous comprenez? C'est pas une coïncidence, parce que là, il y aurait trop de coïncidences. C'est un récit qui reprend l'histoire du Inyana Eloki sous l'apparence d'une effigie d'idole païenne proposée aux Goïm. Les Goïm étaient prêts à comprendre ça à leur manière. Et c'est pourquoi je disais hier que le personnage historique sur lequel c'est un personnage lui-même fictif, c'est n'importe quel juif. Décrit comme exemplaire à la manière des historiens Flusser ou même Robert Aron, apparemment, etc., et qui pourrait être le support littéraire de ce qui est raconté dans ce récit de la passion. Et alors, cette effectuation de foi, pour que vraiment il y a eu un homme magiquement comme ça, c'est une réalité, et non pas la carte d'identité du peuple d'Israël décrit par sa propre tradition, c'est ça. Et la dimension païenne, magique, qui ne peut pas faire partie du dialogue. Parce que, en fait, on ne peut pas dire aux théologiens chrétiens, premièrement, nous avons à vous féliciter, vous croyez sans savoir à la véritable foi, celle du Inyana Eloki d'Israël, seulement vous dites, deuxièmement, vous y croyez de manière païenne et magique, comme des ostropithèques. Et pas possible, un dialogue pareil. Mais c'est le seul qui serait efficace.
Thank you.
sur une seule chose. Et donc, moi, cette excuse, je trouve que la notion de Mishi Ardenbazin, ça me semble une entité abstraite, c'est quand même une personne.
Oui, oui. Et mais ça aussi, ça a été. Mais ça aussi, ça a été transformé. Ça aussi, ça a été transformé. Et avant, ça aussi, ça a été transformé. C'est passé de Mashiach à Christos. Et la fonction Christos n'a rien à voir avec la fonction Mashiach. Rien. C'est autre chose. Non, c'est pas pour ça. Je vous dis, ce que je voudrais ajouter, mais peut-être qu'un jour, on fera un séminaire sur le texte des évangiles, pourquoi pas. C'est intentionnellement que les rédacteurs des évangiles ont créé cette histoire de la chrétienté à l'intérieur de l'Empire romain. En donnant à tout le monde, disait saint Paul, rendez-vous dans 2000 ans. Mais ce rendez-vous dans 2000 ans, on y est maintenant.
Et le déterminisme.
Qui s'appelle le déterminisme?
Le fait finalement que la perception de toute cette crucifixion du peuple juif disparaît,
cachée.
Non, mais pas seulement ça, on a été obligé de la vivre.
Pas du tout. On a été. Ah, attendez. Ou alors j'ai pas compris. Je veux dire, les juifs ont subi ça. C'est ça. Qu'on a été obligé de le survivre. De le subir.
Oui.
Non. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ben, parce que tu as paru cette dimension de l'antisémitisme romain qui est devenu par la suite l'antisémitisme du Québec. La haine des juifs. Écoutez, je me rappelle il y a très très longtemps la première conversation que j'ai eue avec le père Dubois. C'était juste après la guerre, la première année de l'école d'Orsay, et puis Castor, c'était notre chef, nous a amené à l'université du Sochoir, qui est l'université dominicaine. Et le père Dubois était à l'époque le bibliothécaire de l'université du Sochoir, puis on avait eu une très longue conversation. Et puis, finalement, il m'a dit, vous savez, je peux vous dire que si les juifs existent encore, c'est pas la faute des dominicains. Vous connaissez les archives?
C'est pas la faute des dominicains.
Oui, c'est pas la faute des dominicains. Il connaissait les archives de l'ordre des dominicains. Il m'a dit, vous savez, je peux vous dire, si le peuple juif existe encore, c'est pas la faute des dominicains. S'il avait pu, eh bien, il l'aurait annulé, le peuple juif. Pour vous dire ceci. Il y a un point extrêmement important. L'Église s'est instaurée, l'Église, je parle de l'Église des prêtres, s'est instaurée comme un Israël pour les nations, et en tant que tel est devenue rivale de l'Israël de l'histoire. Mais cette catastrophe qui est arrivée, c'est qu'elle a répudié la Torah d'Israël, qu'elle aurait dû, vivre comme témoignage de sa propre espérance. Dans l'histoire. Et corollairement, est apparue cette dimension de l'antisémitisme chrétien. Et j'ajoute juste une phrase, on parlait, qu'est-ce qui arrivera au jugement dernier quand les chrétiens seront jugés? Alors, j'avais dit au père Dubois, si vous entêtez à dire que vous êtes le véritable Israël, vous serez jugé d'après la loi d'Israël, et c'est très mauvais pour vous. Renoncez à ça. Ah, j'ai raison. D'accord.
Je voudrais poser un problème de méthode par rapport à la façon de se dérouler les séminaires et par rapport au thème et aux questions qui ont en fait des rapports à la chronique quelque part dans la dernière qui s'appelle Michel Zerel. Il n'y a pas de doute que le prochain séminaire est plus fait, me semble-t-il, parce qu'il y a une telle fascination du Christ, de l'évangile. Alors, abordons carrément le thème, franchement, avec des textes et faisons-y études, le texte. Mais vous, sans arrêt fasciné, sans arrêt tiré, sans arrêt par ces choses-là, sans aborder les textes traditionnels à chaque fois, ça va plus.
Bon, mais je veux dire, les textes traditionnels, entre guillemets, c'est les évangiles. Parce que, vous savez, il y a un blackout total dans les documents, comme j'ai dit hier. Et les documents, ce n'est pas des livres historiens, hein. Les documents sont les réalités de traces historiques sur lesquelles les historiens travaillent. Il n'y a aucun document. Sur l'historicité en question, même pas dans des pseudo-textes familiques. Et alors, bon, on va y réfléchir, ça pourrait se faire à ce niveau-là. Mais donc, j'avais peut-être raison de dire plusieurs fois que cette manière d'aborder la question de personne devant le christianisme ou le judaïsme, ça éclaire les origines du christianisme pour les expériences des juifs contemporains. C'est à peu près ça. Okay. Bon, allez, on referme la parenthèse, on revient à l'Israël. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut y aller. Oui.
À propos de la conversion de Bergson, ou plutôt de la non-conversion de Bergson, Lacroix avait fait un article il y a quelques années à propos d'une thèse concernant la critique bergsonienne du concept. Et elle disait que c'était l'impossibilité d'accepter le discours, la rhétorique chrétienne qui avait empêché Bergson, au fond, de se convertir.
C'est une opinion intéressante. Et je pense que, enfin je vous répéterai donc, c'est inutile de répéter trop, je pense pour ma part ce que je vous ai déjà dit, c'est que c'est une réaction de courtoisie du style culture française vis-à-vis d'une communauté persécutée, mais que Bergson avait radicalement quitté ce milieu-là, le milieu juif.
Oui, mais moi ce qui m'aurait intéressé à propos de Bergson, c'est que, malheureusement je ne vais pas étudier, hein, c'est qu'au lieu d'avoir une conférence de l'étude qui a la fête judaïsée, et une conférence que vous avez baptisée, c'est la vie. On est justement à propos de la persécutée. Quelqu'un qui nous dise peut-être qu'est-ce qui, malgré Bergson, lui est resté de juif, malgré peut-être sa vie, sa culture.
Et je pense que c'est M. Ankilevitch qui doit le faire dimanche. Sylvien.
Le qui était de la culture,
voilà. Oui. Je veux
dire, cette perspective-là, elle est peut-être une culture.
Oui. Je dirais, ma tendance personnelle, et je revois dans ma mémoire cette énorme œuvre, rien, presque rien. Mais, enfin, bien que Lévis en parlerait beaucoup plus précisément, puisqu'il l'a connu personnellement. En tout cas, au niveau du fait social, lui, il était radicalement en dehors, radicalement, radicalement. Il y a là un processus du juif assimilé de ce temps qui veut vraiment quitter le ghetto pour entrer dans la société ambiante. Okay? Mais il ne peut pas. Là, l'histoire l'a empêché. S'il n'y avait pas eu la persécution juive, que serait-il passé? Lui seul peut répondre. J'ai lu il y a quelque temps le livre de Minkowski, un juif pas très catholique. Bon, Minkowski n'a pas la stature de Bergson, bien entendu. Mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup bien fait comprendre cela. La haine qu'il a pour le ghetto polonais de son grand-père. Je ne sais pas si vous rappelez cela. Alors, à ce niveau-là, de l'assimilation des juifs en ce temps-là, entre les deux guerres, si vous voulez, eh bien, il y a cette espèce d'obsession de quitter cette identité haïe du ghetto pour entrer dans la société civilisée. Bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne cherchait pas une carte d'identité sociologique pour entrer à la Sorbonne ou au Collège de France ou à l'Institut, pas du tout. C'est que le mouvement de sa philosophie le menait vers ce qu'avait été l'expérience chrétienne des origines, avec beaucoup de difficultés de la part des théologiens chrétiens, vous l'avez très bien signalé, bien, qui, eux, étaient restés chrétiens orthodoxes et non pas bergsoniens. Hein? Mais c'est le mouvement de sa philosophie qui le menait là et qui, en tout cas, pour ma part, ceci m'a éclairé sur ce qui a pu se passer aux origines du christianisme. Des juifs ayant, c'est aussi le cas de Spinoza dans un tout autre registre, des juifs ayant acquiescé, condescendu à ce qu'on dise cela d'eux. Alors que leur maître leur disait « le Yann Eloki passe à travers l'histoire d'Israël », ils entendaient des païens leur dire « vous êtes des hommes divins incarnés, Dieu incarné dans l'homme », et vous entendez ça dans la bouche de beaucoup de chrétiens qui veulent féliciter les juifs, en chacun d'entre vous il y a une part de Dieu, et tout ce que vous voudrez, okay, et qui ont acquiescé à ça. Okay. Chez Spinoza, c'est beaucoup plus patent. Bergson était beaucoup plus fin, si vous voulez, et ne dit pas ça de lui, mais dit ça de l'homme en lui. Et vous comprenez, les choses sont vastes. Okay. Voilà. Alors, c'est énorme comme expérience, parce que ça nous a fait 2000 ans d'une histoire terrible. Et finalement, quand cette histoire sera résorbée, dans l'étape suivante de l'évolution créatrice et de l'étape suivante des toladotes du Yinyan Eloki, c'est pas la même chose, mais ce sont ces deux vocabulaires, eh bien, on s'apercevra qu'il ne restera rien, rien, sinon une des aventures de l'esprit païen, qui voit chez l'homme l'incarnation de Dieu comme créateur. Bien.
Je sens cependant que l'optimisme profond qui se dégage de l'œuvre de Bergson est beaucoup plus de nature juive que de nature chrétienne. Ce n'est pas un optimisme de rédemption, c'est davantage un optimisme de Canada.
Vous avez raison, mais cet optimisme-là n'est pas que juif. Et vous le trouvez aussi dans d'autres courants de pensée. Il ne s'appuie pas sur la certitude des événements de révélation qui le lui ont confirmé, mais c'est une tendance, effectivement, de l'optimisme humain en général. et qu'on trouve à l'échelle individuelle dans beaucoup de chassidim du monde arabe. Le salut est possible. Vous savez, personne ne se serait pas inséré au christianisme de Port-Royal, même pas au numéro 30 du boulevard. Il n'aurait pas été janséniste, il n'aurait pas été pascalien. C'est bien évident, il y a un petit morceau d'une critique de Pascal dans l'œuvre de Bergson aussi, qui est peut-être plus importante que sa critique de Plotin. Bien, allez, on revient quand même sur la terre d'Israël, à partir de la page, du haut de la page 50.
On va pouvoir finir.
Alors voilà quel était le point. Le point était qu'on pourrait objecter à Judas Lévi qu'il y a eu des prophètes qui ont prophétisé en dehors de la terre d'Israël. Il nous a déjà répondu, tous les exemples qu'il avait cités à partir du temps hébraïque sont des exemples de prophètes qui soit sont nés sur la terre d'Israël, comme par exemple Ézéchiel, Jérémie, Daniel, vous vous rappelez, soit qui d'ailleurs n'ont désigné dans leur prophétie que la terre d'Israël, et la Béret Israël au Barabouba, la prophétie n'a eu lieu qu'en Eretz Israël ou à son sujet. Soit comme Abraham ou Moïse, qui ne sont pas nés en Eretz Israël, mais qui portaient en eux dans deux indices très différents. Abraham, c'est le moment d'émergence de l'identité hébraïque de Hever. Moïse, il est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Il est encore hébreu dans son être profond, bien qu'habillé en égyptien. Et soit que la prophétie n'a concerné que Eretz Israël. Pour Moïse, c'est très clair. Tout ce qu'il dit à Israël, depuis qu'il commence à leur parler, quitter l'Égypte, rentrer à Jérusalem. Et pour Abraham, la seule chose qu'il s'entend dire à Our Kasdim, c'est « quitte Our Kasdim et va vers la terre que je t'ai donné rendez-vous ». Bon, vous vous rappelez de ça? Alors, « Asher imboat irmiya ou ben Israël ». En ce qui concerne la prophétie de Jérémie en Égypte, dit Judas Lévi, « Halo haïta be'el » dites-moi, c'est Baharet ou Baharet? Alohaïta, en haut de la page, hein? Alohaïta Baharet ou Baharoura, n'a-t-elle pas été, dans son contenu, Haïta Baharet, cette prophétie concernée Eretz Israël et pour elle, Kamoha. De la même manière qu'il joue à Moshe et Aaron et Myriam, qui en est le cas pour la capacité de prophétie de Moïse, Aaron et Myriam. Si Naou Faram, et je ne fais pas partie du Chérout, hein, mais reste fini quand même, si Naou Faram, les déserts du Sinaï et de Paran, Bigboul et Rétisraël, sont à l'intérieur des frontières de Rétisraël. Là, il y a un problème de controverse chez les Poskim, de savoir si le Sinaï fait partie des Rites Israël ou pas. D'après le Maharach, oui, mais il faut le rendre. D'après le Herout, il faut le rendre parce que non. Quelque chose comme ça. Bon, je vous ai désigné un problème sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Vous savez que Begin est d'origine révisionniste. Et dans le programme révisionniste, le Sinaï ne fait pas partie des Rites Israël historique. Alors que dans le programme du Maharach, oui, mais il y a des raisons politiques qui font qu'il faut le rendre. Il est probable que si le Maharach était au pouvoir pendant les discussions avec l'Égypte, eh bien la cession du Sinaï ne serait pas du tout passée comme ça. Le Maharach n'aurait pas rendu tout a priori, parce que dans son programme, le Sinaï c'est Eretz Israël. Alors il y aurait eu des concessions d'une autre manière. Tandis que pour Begin, ça ne fait pas de problème. L'important, ce n'est pas le Sinaï. Jabotinsky ne parlait pas du Sinaï, mais la Judée et la Samarie. Et là, le Maharach, c'est un peu différent, bien que ça fait partie des Rites Israël historiques pour le Maharach, étant donné que ce n'est pas peuplé par des Juifs, ce n'est pas encore le moment de dire c'est à nous, on peut négocier ça avec la Jordanie. Vous voyez à peu près le problème. Bon. Il y a une cohérence dans ces différentes options. Chez les poskim, chez les rabbins, il y a une discussion et Judas Lévi est en minorité. Okay? C'est-à-dire la majorité des rabbins pensent que le Sinaï ne fait pas partie des Rites Israël, en tout cas jusqu'à la ligne à la riche. Okay? Donc Yamit serait en Rites Israël. Bon, donc ça reviendra un jour peut-être, je ne sais pas. Mais Judas Lévi fait partie de la minorité qui consiste à dire que tout le Sinaï fait partie des Rites Israël parce que le fleuve dont il est parlé, c'est le Nil et pas la riche. Oui, quand même.
Le développement d'Égypte, c'est juste
C'est cela. Oui, 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 c'est ça. Bon, les problèmes du Nord, vous voyez que ça se passe autrement. Okay, remarquez.
Et quand vous avez été pour l'univers et que Dieu lui dit que les Hébreux encore en terre promise, ça veut dire qu'ils ne sont pas en terre promise, ils étaient dans le Sinaï en train d'errer. Alors donc le Sinaï ne peut pas être la terre promise, puisque lui n'était pas encore.
C'est-à-dire que c'est une objection à Judas-Lévi. Okay, ça veut dire que il y a, si vous voulez, des niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle la terre de Canaan. Et la terre de Canaan, le Sinaï n'en fait pas partie. Mais avec Israël, le Sinaï en fait partie, dit Judas-Lévi. Il y a un argument des commentateurs Judas-Lévi qui peut être mis en évidence. C'est que nous avons un verset fondamental concernant la dimension de la cellule en tant que capacité de prophétie. Qui mitzion tetzetora. C'est de Sion que doit sortir la Torah. Or, puisque la Torah a été promulguée au Sinaï, c'est que le Sinaï fait partie de Sion. C'est un argument simple. Hein? On peut le nuancer. En ce sens que tout se passe quand même. Et pour toutes les révélations que vous avez citées, sauf le Mahamad Arsinaï, sauf la promulgation des 10 commandements, que la voix qui parle vient de Jérusalem. Hein? Mais le texte dit très expressément que pour ce qui s'est passé au Sinaï, cette voix a parlé du Sinaï. Est-ce que c'est clair? Hachem mi Sinaï ba. Vous avez compris l'argument. Bon, se va-t-il passer historiquement? À mon sens, je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Toute cette discussion des frontières, authentiques ou plus ou moins historiques, des rites Israël, de la promesse, etc., elle est seconde par rapport à toute une question qui concerne l'existence de l'État d'Israël. Je veux dire ceci. S'il y a le préalable de la paix réelle entre Ishmaël et Israël, les questions de frontières sont secondaires. C'est des problèmes purement administratifs à l'échelle humaine. Bon, des nationalistes vous diront, pas du tout, le visa du passeport, quel est le drapeau qui est sur le bâtiment de police, c'est très important, c'est possible, soit très important. Mais imaginons qu'il y ait vraiment une situation de paix messianique. Alors, ce n'est plus important. Et le problème doit être pris dans le sens. Hein. Si on arrive au moment de l'acquiescement de Ishmaël, de l'existence d'Israël chez lui, ces questions de savoir le Sinaï serait Israël ou l'Égypte, ça devient secondaire. Parce que de toutes les façons, nous savons que ça n'a jamais été l'Égypte, dans tous les cas. Hein. Et est-ce que ça fait partie des rites Israël ou pas, ça deviendrait secondaire. Je crois que là, il y a un faux problème. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. De la même manière, d'ailleurs, que pour ce qu'on appelle la Cisjordanie, mais qui s'appelle la Judée et la Samarie. Et c'est que si vraiment il y a la paix avec la Jordanie, eh bien, les questions administratives sur le terrain deviennent absolument secondaires. Parce qu'il n'y a de problème que parce que c'est un territoire peuplé par des Arabes plutôt que par des Juifs. Bon, il y a le problème, pourquoi les Juifs n'ont pas peuplé ce territoire? C'est une autre histoire. Mais les Arabes, en disant en arabe, Yehuda et Shomron, reconnaissent qu'il s'agit de la terre des Juifs et des Samaritains. Rien à voir avec les Arabes. Vous comprenez le problème? Eux-mêmes disent qu'il s'agit de la Judée. Et le monde entier dit qu'il s'agit de la Judée. Et alors, question importante, qu'est-ce que les Juifs viennent faire en Judée? La vraie question, c'est pourquoi ils ne sont pas en Judée et ils sont ailleurs. Et c'est un problème de population. Alors, encore une fois, je crois que le vrai problème, c'est celui de la paix, ça veut dire de l'acquiescement par Ishmaël, Israël est chez lui en Eretz Israël. Le reste, c'est des problèmes administratifs selon municipaux. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon, je ne vous présente pas du tout la position du gouvernement actuel. Elle est différente. Okay? Mais pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Et tant qu'il y a la guerre, il est bien évident qu'une frontière, c'est une frontière. Et qu'il faut qu'elle soit sûre et reconnue, comme dirait je ne sais pas qui. Bien.
Je voudrais vous demander à propos du sujet de séminaire, puisqu'on y est. Les évangiles, c'est quelque chose d'intéressant, mais je crois qu'un séminaire sur Ishmaël, probablement, nous apporterait énormément de choses,
puisque...
Bon, mais je sais pas, il y a quand même des urgences, alors...
Surtout sur les thèmes qui ont été évoqués ici. Oui, non, mais... Peut-être que ça pourrait être... Écoutez, peut-être que... Moitié-moitié. Écoutez, peut-être que ça peut être simultané, d'ailleurs. Étant donné qu'il y a une introduction à ces deux sujets, qui est que ce sont quand même deux personnages qui se sont dressés du dedans de la famille d'Abraham comme rivalité, contestation par rapport à Israël. C'est Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre, et Esaü de l'autre. Il y aurait donc d'abord un débroussaillage de cela à ce niveau-là. Et ensuite, la particularisation Ishmael dans l'histoire ou Ésaïe dans l'histoire. Et je vous cite là quelque chose d'important. Comprenez bien que cette identité judéo-chrétienne à l'origine, elle est l'identité d'Ésaü. Quand nous disons c'est sorti de la communauté juive, au niveau Isaac, pas au niveau Jacob, c'est la dimension Esav qui apparaît là. Et d'ailleurs, je ne peux pas vous donner aujourd'hui plus que cette indication-là, et c'est que lorsque cet enfant qui est né jumeau de Jacob, le texte dit qu'il a été appelé Esav, ça s'écrit comme ça. Okay. Esav. Et Rachid dit, le verset dit, et tout le monde l'a appelé comme ça, parce qu'il avait l'apparence d'un être déjà achevé, déjà advenu. Il est déjà là. Vous voyez à quoi ça ressemble. Okay. Et dit que Varnaaka, il a été déjà fait. Bon. Et alors, on va reporter l'adjectif de Naasa, il a été déjà fait au nom de Esav. À ce moment-là, ça s'écrit Asouy. Okay. Alors, quel mot vous faites avec ces lettres-là? Voilà, d'accord. Alors, vous voyez qu'il y a là une identité en jeu d'histoire dès l'origine. Okay. Bon, on est pas. Hein. C'est-à-dire, il arrivera un temps où on pourra dire les a eu, on les a eu. Okay. Vous pouvez. Ce qu'il faut demander, c'est un peu la grâce du ciel pour que ce jour-là, on soit gentils les uns et les autres. Parce que si on arrive au centre de la passion, ça explose. Oui, je pense que vous avez raison. Okay. Bien. Alors, et voilà ce que veut dire pour le Sinaï Judas Lévi. Je vous précise, c'est une opinion un peu minoritaire chez les postulants. Dans tous les cas, pour la révélation dans le Sinaï, il n'y a pas de problème. Le Sinaï fait partie des rêves d'Israël, dit Judas Lévi, il y a des arguments pour ça. On avance un peu plus vite. Simplement, je vous signale quelque chose que nous avons une fois entendu. Il y a un verset qui revient très souvent dans la Bible, dans la Torah, sur ces révélations qui se font au Sinaï. Et pour éclairer votre question, c'est Vehaya Kitavo El Haaretz. Kitavo El Haaretz. Le texte dit, et il arrivera quand vous irez dans le pays. Alors là, c'est pour votre argument, on est au Sinaï, et la parole de la Torah dit, quand vous irez dans un pays où vous n'êtes pas encore. Comment tu peux dire, toi, Judas Lévi, que là où tu te trouves, c'est déjà ce pays où tu dois aller. Est-ce que c'est clair? Ben, regardez bien en hébreu, comment le verset aurait dû dire, pas Vehaya Kitavo, mais Vehaya Kitelech. Le verset aurait dû dire, il arrivera quand tu iras, comme dit la traduction. Le verset dit, il arrivera quand tu viendras, qui t'avoue. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que, ça, je cite un enseignement du Rav Kook, la voix qui parle au désert vient de Jérusalem. Il arrivera quand tu viendras chez moi. Sinon, elle dirait, il arrivera quand tu iras là-bas. Mais qui c'est qui est là-bas? C'est moi. Donc elle dit, quand tu viendras. C'est important de comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des niveaux, et puis à la sortie d'Égypte, il y a des marches, enfin des marges, si vous voulez, mais il faut arriver jusqu'au niveau qui s'appelle Sion Yerushalayim. La voix parle de là. Alors, on avance dans le texte, si vous voulez. Vous devez voir Eloka. Haya. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. Veshati et Gvulcha. Et vous avez la référence en bas de page. Et j'installerai, je placerai ta frontière, Miyamsu. Depuis Yamsu, c'est donc pas le canal de Suez, c'est un peu plus en Égypte Yamsu. Okay? La mer des gens, comme on traduit. Vehad Yam Plishtim, et jusqu'à la mer des Philistins, c'est la Méditerranée. Umidbar Adanahar. Et du désert, c'est la Jordanie, Adanahar, c'est l'Irak. C'est-à-dire, là c'est le phrase. Okay. Là, il y a un programme d'un Eretz Israël super schéma, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Judas Lévi ici. Ce qui le préoccupe, c'est de répondre à l'argument qui consiste à dire, comment peux-tu dire qu'il n'y a de prophétie qu'en Eretz Israël? Il y a eu prophétie au Sinaï. De répondre, nous avons une référence qui te montrera clairement que le Sinaï, c'est aussi Eretz Israël, disons un certain livre.
Peu importe.
Mais vous, Geboula Dromi, Shelaare. Et ce Yamsou, c'est la frontière sud, méridionale, on dit, sud, de la terre, vers Nahar, et le fleuve dont il est dit, dont il est parlé dans ce verset, chez Unehar Perat, qui est l'Euphrate, Kemo Sheneemar, comme il est dit, Vanahar Arevii, Vanahar Arevii, ou Perat. Vous, vous l'arrêtez pas sa faune. Ça, c'est la frontière du pays, dans le nord.
On s'en occupe actuellement.
Mais, difficilement. Sauf, Baret Azot, dans Saradam Arishon, c'est dans cette terre-là qu'a été formé le premier homme. Barnet, et qu'il y est mort. C'est-à-dire, cette terre dont il est parlé, sache premièrement, quel est le berceau d'humanité. Voilà ce que vous allez vivre. Qui est Fiam Koubal? Car d'après ce que nous savons par tradition, le Fiam Koubal est sur nous. Nikbehu de Ma'arat à Marpella ont été enterrés à la caverne de Marpella, donc à Hebron, Arba Azugot, quatre couples. Adam et Chava, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, et Jacob et Léa. Et vous savez que Rachel a été enterrée sur le chemin à Bethléem, ce sont d'autres thèmes, et là je vous signale de nouveau que l'islam accepte cette tradition. Pour l'islam aussi, dans la caverne de Marpella, il y a Adam et Chava, donc c'est le berceau de l'humanité, Abraham et Sarah, et pas Abraham et Agar, Isaac et Rebecca, et pas Ishmael et sa femme, Jacob et Léa, c'est-à-dire les Juifs. Donc l'islam reconnaît cela. Ce qui s'est passé entre-temps, en particulier l'apparition du christianisme, puisque la contestation sur l'Israël telle qu'elle est dans l'islam vient des évangiles. Il faut bien comprendre ça. Si un jour nous faisons ce séminaire, j'essaierai de vous montrer une dimension très étonnante, très paradoxale. C'est qu'en réalité, saint Paul, le premier théologien du christianisme, est du point de vue d'une théologie stricte, d'abord musulman. D'abord musulman. C'est d'abord la théologie de l'islam qui apparaît chez saint Paul. Bon, ça a l'air d'être très paradoxal, ce que je veux dire. Mais en tout cas, nous aurons peut-être un jour le temps de nous y référer. Alors, et Azot, c'est sur cette terre, à propos de cette terre. Pardon ? Je n'entends pas. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Il y a une controverse chez les théologiens musulmans. Certains disent, mais c'est plutôt un niveau populaire, qu'il s'agit d'Ismaël. Mais à un certain niveau beaucoup plus élevé de la théologie musulmane, ils disent le fils d'Abraham. Ce n'est pas précisé lequel est-ce. Mais ils reconnaissent en privé qu'il s'agit d'Isaac et pas d'Ishmael. Vous comprenez, là il y a une espèce de contestation populaire. Hein? En tout cas, il est bien clair que cette tradition de Hebron, qu'il y a Adam et Chava, Abraham et Sarah, et la suite, est reconnue par l'islam comme telle. Donc la contestation ne serait pas à ce niveau théologique, Eretz Israël, c'est bien Eretz Israël. Mais à la suite des évangiles, la thèse du Coran est que les Juifs sont démérités. Et par conséquent, ont perdu cette prérogative de la terre et elle est passée à l'islam. Vous avez compris le problème. Et cette terre a été l'objet de contestations et de querelles. Nous sommes donc au début du troisième paragraphe. À la Ressazot Nafla Amachloket, Dakina, la querelle et la jalousie, Barishona, dès le début, Ben Hevel ou Ben Caïn, entre Abel et Caïn. Où s'est passée la scène d'Abel et Caïn, nous dit Tina Lévi. En Eretz Israël, à propos d'Eretz Israël. Et nous vivons tout cela comme vous voyez. Ensuite, Kacher Bichou la Da'at, lorsqu'ils ont voulu savoir, ni Mishneem, lequel des deux, Yeratse la Bovim comme Adam, sera agréé pour remplacer Adam. Tisgulato Vegaraino, comme étant la Sigula, la spécificité d'Adam, Vegaraino est son germe, son grain qui germe. Ou basi, Yehu Ayoresh, et enfin il serait lui l'héritier, et à Aret de cette terre. Yehu Amdoubak Bahinyan Eloki, et donc, grâce au privilège de cette terre, s'attacher au Inyan Eloki. C'est-à-dire que l'enjeu, à qui appartient la terre sainte, entre guillemets, était déjà l'enjeu de la querelle de Caïn et Abel, dit Judas Lévi. D'ailleurs, nous avons des Midrashim qui montrent que ça se passait sur l'endroit de l'esplanade du temple. Très exactement. Par exemple. Et Achille. Et alors à ce moment-là, Achille, son frère, Loïe ne serait plus qu'une kakelipa, comme l'écorce, comme la kelipa.